Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.
Magali Merton, bonjour. Vous êtes directrice études et recherche pour Knight Frank. Merci d'accepter cette interview. Déjà, pour nos auditeurs, peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous représenter Knight Frank en quelques phrases?
Oui, bien sûr. Alors, Knight Frank, nous sommes une entreprise conseillant internationale en immobilier d'entreprise. 27 000 personnes dans le monde, 120 sur le bureau français, dont l'activité se structure autour de 5 lignes de métier. La transaction avec notre équipe OLSS, les métiers du capital market, les métiers de l'expertise, les métiers de l'aménagement avec notre équipe design and delivery et l'accompagnement des grands utilisateurs autour de notre activité globale portfolio services.
Alors, on va parler du Wells Report qui a été dévoilé en France aujourd'hui. Juste petite question, en 2025, qui sont vos clients? Quels sont les profils de vos clients? Toujours pour situer pour nos auditeurs.
Alors, on a chez Knight Frank une particularité au niveau international, c'est finalement d'avoir une clientèle de privés, de grandes fortunes mondiales, et on capte à peu près un tiers de ces grandes fortunes à travers le monde, ce qui nous donne finalement l'occasion de pouvoir les interroger sur leurs préférences, leurs intentions d'acquisition, d'investissement, et c'est le propos du Wells Report qui va donc s'intéresser à cette population de grandes fortunes à travers le monde et de décryptage de leurs tendances de consommation.
Et alors justement, 19e édition dévoilée aujourd'hui en France, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes de ce rapport ?
Alors, ce rapport, il va nous permettre déjà de quantifier finalement ces grandes fortunes. On parle de plus de 2 millions de personnes à travers le monde, un peu plus de 300 000 en Europe et 51 000 en France. On parle de là de personnes qui ont un patrimoine supérieur à 10 millions de dollars. Ce qui est très intéressant de regarder, et ça, on le perçoit au travers de différentes enquêtes que nous menons, et en particulier sur la nouvelle génération, la jeune génération de ces grandes fortunes, c'est qu'on voit très clairement une vraie attirance, une vraie appétence pour l'immobilier, immobilier haut de gamme quand on parle de projets de détention, donc là plutôt un profil personnel, une attirance personnelle, un pied à terre. Alors le résidentiel haut de gamme, qu'il soit à Paris, qu'il soit sur la Côte d'Azur, qu'il soit dans le massif alpin, il y a des possibilités d'investissement en France, ou alors un immobilier plutôt considéré comme un produit d'investissement, s'inscrivant dans une stratégie finalement d'investissement, de faire travailler sa fortune, et l'immobilier arrive comme deuxième choix derrière le marché des actions en termes de stratégie d'investissement. Donc on a là une sorte de mariage, un vrai plébiscite de l'immobilier chez ces grandes fortunes dans le monde et en Europe et en France.
Et donc transgénérationnel d'après ce que vous...
Et complètement transgénérationnel, et peut-être même plus encore à venir. Puisque une des enquêtes que nous réalisons, donc là, on va aller interroger 150 family office dans le monde pour essayer de comprendre quelle est leur stratégie d'investissement. Clairement, la volonté d'accroître leur exposition à l'immobilier, qu'il soit en immobilier direct. 44% des personnes des family office sondées veulent avoir encore plus d'immobilier en direct dans leur patrimoine, et 37% de façon indirecte. Donc la part finalement de l'immobilier, si on en croit cette enquête, devrait encore augmenter au cours des prochaines années.
Donc de façon indirecte, pour nous expliquer, rentrer dans le détail, ça veut dire ?
Ça veut dire peut-être prendre des participations ou des positions dans des entreprises qui détiennent de l'immobilier. Là, on n'a pas un lien direct de détention de l'actif immobilier. Donc il y a vraiment un terreau très favorable de la part de chez ces grandes fortunes
pour la pierre.
Pas n'importe quelle pierre, bien évidemment.
Oui, donc on est sur du haut de gamme, c'est ça, haut de gamme, luxe, prestige.
Voilà. Alors c'est ce qu'on a voulu nous présenter au travers de cette analyse. Donc on s'est appuyé sur le Wells Report qui nous donne quelques grandes indications, et de voir comment on peut le transposer sur le marché parisien en ayant ce prisme de ce qu'on appelle finalement l'ultra prime, qui va avoir une résonance en termes de résidentiel, donc le résidentiel haut de gamme, qu'il soit de la résidence, de l'acquisition de résidences en bloc pour des projets d'investissement. Aujourd'hui, on a une part de marché des investisseurs privés de ces grandes fortunes autour de 10%. On pense qu'elle peut augmenter à l'avenir.
Il y a l'offre qui suit derrière.
Alors
Paris.
Justement, ouais. Sous réserve d'avoir l'offre qui y convient. Parce que ce qui nous apparaît très clairement, c'est qu'il y a une forme de très grande sélectivité sur la qualité des biens proposés. On parle donc là de localisation, on va parler de prestations. Quand je dis localisation, je pense aussi d'altitude quand on va regarder le marché résidentiel alpin ou d'accès à la mer ou d'aménités de très très haut standing sur la Côte d'Azur. Cette appétence pour l'immobilier, elle va pas conduire à des acquisitions de biens de qualité médiocre. Et c'est bien là tout l'enjeu à venir pour les marchés immobiliers français, c'est de pouvoir accompagner cette montée en gamme et finalement proposer des produits d'investissement qui feront sens pour ces grandes fortunes dont on comprend qu'elles aiment l'immobilier.
Et concernant les autres classes d'actifs, alors?
Alors justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que on a des intentions d'investir où on voit très clairement que alors ce qu'on appelle le living sector, qui est finalement toute cette partie de résidentiel opéré, arrive en classe d'actifs numéro 1, celle qui est privilégiée.
Ça a changé.
Alors ça a changé, oui. C'était pas forcément ce même pourcentage. On voit aussi un produit immobilier intéressant. Je reste sur la sphère résidentielle, mais ce qu'on appelle les branded résidences, c'est finalement des résidences qui vont être conçues, opérées, livrées clé en main, très haut standing, très grande surface, face un nombre assez conséquent d'appartements mis en location, mais qui vont aussi, alors qui est un produit qui est pour l'instant qui est pas connu en France.
C'est très américain, ça.
Alors c'est américain, pas mal au Moyen-Orient, à Londres, produit qui est apparu il y a une quinzaine d'années. Là, il nous semble que on va pouvoir là maintenant avoir ce type de proposition d'investissement pour ces grandes fortunes sur ces produits résidentiels qui correspondent vraiment à des impératifs très très précis.
Et ça, on est dans l'investissement, on n'est plus dans l'usage personnel.
Ça pourra être les deux. On va voir justement comment ces premières opérations, dont on pense qu'elles peuvent arriver d'ici quelques années, elles vont finalement recevoir. Je reviens sur la partie immobilier d'entreprise, puisque ce qu'on voit aujourd'hui de la réalité de l'investissement de ces capitaux privé sur le marché français, c'est encore beaucoup du bureau. Ouais. 71% des capitaux investis l'année dernière.
Malgré ce qui se passe actuellement.
Ce qui se passe. Et 25% sur du commerce. Et là, quand on regarde dans le détail des opérations, on retrouve finalement cette composante très haut de gamme, puisque on va parler de bureaux dans le QCA, on va parler d'espaces commerciaux, de boutiques sur les grandes artères prime.
Donc avec une offre très limitée.
Alors avec une offre très limité, mais surtout avec une vraie cohérence business. Fortune privée, certes, mais ça reste aussi des investisseurs qui vont regarder les fondamentaux du marché locatif. Et finalement, ce qu'on voit des opérations qui ont été réalisées, en tout cas l'année dernière, c'est vraiment une forte appétence pour le bureau dans le quartier central des affaires. Pas de mystère, c'est là où la demande placée est la plus dynamique. Vous avez très 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 peu de vacances, 4% versus 10%, voire 20% sur d'autres secteurs. Et puis une croissance des loyers qui finalement pérennise votre revenu locatif et potentiellement une plus-value si revente il y a. Et c'est la même chose qu'on va voir sur la partie commerce, où le fléchage financement de ces capitaux privés se fait à destination des artères prime, que ce soit les Champs-Élysées, que ce soit l'avenue de l'Opéra, que ce soit la rue de la Paix, qui, elles aussi, ont un taux de vacances deux fois plus faible que la moyenne parisienne et qui ont un vrai sens en termes d'ouverture d'enseignes étrangères. Donc, il y a une vraie spécificité et on voit là que ça coche les cases, finalement, des stratégies d'investissement de ces grandes fortunes.
Avec peut-être un peu plus de turnover pour les commerces.
Oui, alors ouais. Pareil, oui, un élément intéressant, ça sort d'une analyse qu'on a réalisée sur les artères commerçantes à Paris, où on voit un taux de rotation sur les artères prime de 10%, hein, donc 2 points supérieurs à la moyenne des autres artères, ce qu'on appelle les artères majeures. Ouais. Donc on a finalement une plus grande dynamique locative qui permet aussi d'atteindre des valeurs locatives qui sont très nettement supérieures à 10 000 euros du mètre, 16 000 euros en valeur prime pour les Champs-Élysées, par exemple.
Pour résumer tout ce qui s'est dit ce matin, il y avait une conférence de presse hein, sur ce Wells Report. Pour peut-être résumer et peut-être avoir votre avis personnel sur la suite de l'année, peut-être les envies de ces grosses fortunes côté investissement.
Alors, ce qui est clair, c'est que ces grandes fortunes s'installent sur le marché de l'investissement. Hein, leur part de marché a été multipliée par 4 en 5 ans. On parle quand même d'une capacité d'investissement l'année dernière de pratiquement 2 milliards et demi. Donc, c'est assez significatif. Je pense que ce à quoi on pourrait assister, c'est peut-être un rééquilibrage. Continuer avec cette très grande sélectivité à opérer sur vraiment le segment très haut de gamme, très ultra prime en immobilier d'entreprise, et puis déployer plus de capitaux sur la partie résidentielle, sous réserve, encore une fois, que le marché soit capable de générer finalement ces opportunités qui remplissent tous les prérequis en termes d'investissement et de stratégie d'investissement de ces capitaux.
Et oui, il faut que ça suive derrière. Eh bien, merci beaucoup Magali Marson pour cette interview.
Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.